Bienvenue sur Sois mère et tais-toi, le podcast qui dégomme les idées reçues et les injonctions sur la vie de maman. Je m'appelle Adèle, je suis moi-même maman de 4 enfants et je suis aussi coach des mamans surchargées, c'est-à-dire que je les aide à alléger leur quotidien, faire de la place dans leur agenda et mettre plus de fun dans leur vie. Toutes les semaines, je publie un épisode avec un invité ou en solo dans lequel je te partage toutes mes connaissances de coach, mais aussi ma vie de maman. Avec ce podcast, je veux t'aider à comprendre ce qui surcharge ton agenda, ce qui compte pour toi, ce qui te donne l'impression de courir sans arrêt, sans jamais réussir à te poser ou à même prendre du temps pour toi. Et je te partage les clés pour transformer ta vie comme j'ai transformé la mienne, celle de ma famille et celle de mes clientes. Tu peux me retrouver sur Instagram, @adèlesaintgier, mais aussi sur Telegram, c'est mon nouveau chouchou, pour avoir mon actu toute fraîche, connaître mes programmes d'accompagnement ou juste entrer dans mon quotidien de maman, mais aussi de femme, d'amis, de sportive, de pédagogue et de tous les sujets qui me passionnent et qui méritent tous une place dans ma vie. Bonne écoute! Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Help, mon enfant, 3 petits points. Et aujourd'hui on va parler des devoirs. Et donc, au secours, mon enfant ne veut pas faire ses devoirs. Alors, en introduction de cet épisode, je voudrais d'emblée mettre les pieds dans le plat et te rappeler le contexte. Si toutefois tu ne le connais pas, il se trouve que en France, les devoirs écrits à la maison, en primaire, sont interdits depuis 1959. Je te dis pas qu'ils sont optionnels, ils sont interdits par la loi. Et pourtant ils persistent, notamment parce que nous parents, on a souvent l'impression que sans devoir, notre enfant n'avancera pas, ça nous fait très peur et qu'on a tendance, d'un point de vue communautaire j'entends, à mettre la pression aux enseignants, même ceux qui aimeraient bien, parfois, qui choisissent en tout cas d'essayer de ne pas donner de devoir. Et donc le truc persiste depuis des années sans que personne n'y trouve vraiment à redire. Alors moi j'y trouve à redire, mais... je peux pas faire grand chose à mon petit niveau malheureusement, à part te redire que les devoirs en primaire sont interdits par la loi en France, et que donc si déjà nous parents on commençait à faire passer cette info là et à demander aux enseignants de respecter la loi, ça nous libérerait quand même beaucoup de soirées et d'après les rapports PISA, nos enfants ne seraient pas en difficulté scolaire pour autant, voire même ça améliorerait leur niveau. Donc lâchons-nous hein, sur cette question d'aller appliquer la loi sur l'interdiction des devoirs, on peut y aller. Donc déjà, ce petit préambule est là aussi pour te lâcher un peu de pression. C'est pas dramatique si les devoirs sont pas faits. De toute façon, il ne devrait pas être là. Donc, pour commencer, je propose qu'on se détende. Ensuite, bah, tu vas me dire, Adèle, tu radotes, mais c'est parce que c'est hyper, hyper important. Demande à ton enfant ou essaye de comprendre pourquoi il ne veut pas faire ses devoirs. Vraiment, va creuser très loin, parce que pourquoi j'ai pas envie, ça suffit pas. C'est une réponse, c'est pas la question, mais c'est pas une réponse qui va t'aider. Donc, et ça je te le redis, n'hésite pas à dire à ton enfant, si tu ne m'expliques pas plus précisément ce qui te bloque, je ne vais pas pouvoir t'aider. J'ai besoin de savoir pourquoi tu ne veux pas faire tes devoirs pour pouvoir t'aider. C'est pour ça que quand on pose cette question, il faut être vraiment dans la bienveillance, il faut que l'enfant ne se sente pas jugé et que on ne lui réponde pas bah t'as pas envie mais on fait quand même. Parce que du coup il va pas vouloir te donner de raison de pas faire ses devoirs si tu ne lui trouves pas de solution derrière. Donc n'hésite pas à creuser, ça peut prendre un petit peu de temps, hein, à creuser ce problème-là, et des fois d'autres problèmes peuvent se greffer. Il peut t'avoir donné un problème une fois et puis la semaine suivante c'en est un autre. Ça peut être des difficultés, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'y arrive pas va avoir tendance à abandonner ou alors à refuser les devoirs. Ça peut être de l'ennui, il y a des enfants qui trouvent ça hyper ennuyeux de faire les devoirs, ça dépend de ce qu'on lui propose. Tu peux aussi, ça peut être trop long aussi. Je te donne l'exemple parce qu'il m'est arrivé tout à l'heure. Là, mon petit dernier a une fiche de lecture à faire. Et visiblement, là, il y avait une fiche de lecture qui était déjà faite. Le livre qu'il avait dans son cartable, il l'avait déjà faite. Et je me suis rapprochée de l'enseignante qui me dit il faudrait qu'il en fasse une autre, mais ce qui est important, c'est qu'il lise. Et comme Renan ne voulait pas lire, sans trop me dire ce qui bloquait, je lui ai proposé de choisir le livre. Je lui ai dit, tu choisis vraiment ce que tu veux et ça peut même être une bande dessinée. Et il a choisi une bande dessinée, ce qui, soit dit en passant, n'est pas plus simple à lire et a beaucoup plus de vocabulaire que certains de ses romans faits pour son niveau. Donc j'allais surtout pas lui dire non. C'est-à-dire qu'au pire, s'il a des difficultés, je l'aiderai à lire la bande dessinée. Je peux toujours lire une page sur deux. Enfin bref, l'intérêt, c'est qu'il lise. Mon objectif, c'est qu'il lise. Quoi qu'il lise, on est OK. Donc... N'hésite pas non plus, quand tu vois des difficultés comme celle-là, à te tourner vers les enseignants, déjà pour essayer de voir comment tu peux aménager cette difficulté. Par exemple, mon petit est dysgraphique, donc je fais beaucoup d'exercices à l'oral, c'est moi qui écris et c'est lui qui me dicte. Et je demande souvent à son enseignante, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse faire, parce que si j'écris sous sa dictée et que je lui fais pas expliciter l'orthographe, il n'aura pas appris l'orthographe. Enfin, bref, je fais pour moi l'enseignement c'est un partenariat, hein. Je suis dans la même team que les enseignants de mes enfants et donc je lui demande de l'aide, elle m'en demande, enfin bref, on fait une équipe en fait. Et ensuite essaye de trouver des solutions pour les difficultés de ton enfant. Si tu trouves que c'est difficile, je serai là avec toi, je vais t'aider. Si tu trouves que c'est trop long, on peut mettre un petit chrono. On met 10 minutes, puis quand tu es fatigué, quand tu as fini les 10 minutes, on arrête. Il faut absolument, par contre, respecter ce chrono. Parce que si tu... Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Mais si tu traînes, parce qu'il n'a pas fini de ligne d'exercice, il va rapidement en avoir marre, il va vite se rendre compte qu'on a dépassé le chrono, et après, il ne lui fera plus confiance au chrono. Donc, c'est hyper important de se fixer un temps qui est assez court. Moi, je mets 10 minutes pour un enfant de 7 ans. Ça peut être plus si l'enfant est plus âgé. C'est vraiment à toi de voir. Tu peux aussi tâtonner. Hein. Mettre 10 minutes, si vraiment ça se passe bien, tu te dis, bon, la prochaine fois, on essaiera 15. Ou alors plutôt faire l'inverse, mettre 20 minutes, puis s'il finit très vite, tu lui mets 15 minutes. Mais il faut absolument qu'au bout des 10 minutes, tu arrêtes les devoirs, même s'ils ne sont pas finis et même si tu n'as pas le temps de renouveler 10 minutes la même journée ou avant que le devoir doivent être rendus. Un peu difficile à dire, ça. Comme je te l'ai dit, les devoirs à la maison écrits n'étant pas obligatoires, si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave. C'est pas la peine de... Et puis surtout, si ton enfant se braque au-delà des 10 minutes, de toute façon, il n'apprendra rien. Donc ça ne sert vraiment à rien d'insister, l'apprentissage sera nul, et voire même, t'auras gagné en prime une confrontation avec les devoirs. C'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt à mettre l'enfant en confiance, de façon à ce qu'il ait de plus en plus de spontanéité et de facilité avec ses devoirs. Pour lui, il faut que ce soit une formalité. Pas forcément une formalité agréable, mais quelque chose de facile dont on se débarrasse pour aller jouer. C'est pas grave si c'est quelque chose de facile dont on se débarrasse, c'est OK. Mais si on n'a pas ça, ce sera toujours de la bagarre. Donc, vraiment se mettre dans cet objectif-là, je veux qu'il arrive à ce que ce soit facile et vite fait. S'imposer 10 minutes, même si c'est pas fini, ça va être, ou plus, hein, c'est pas la question, mais s'imposer un temps, même si tout n'est pas fini, ça va être hyper, hyper important. Tu peux aussi ajouter du fun au devoir si vraiment ça l'ennuie. Alors, tu peux aussi jouer sur les matières. Quelle matière tu veux qu'on fasse en premier ou en dernier, s'il y a plusieurs matières. Tu peux aussi jouer sur la position. Il y a des enfants qui préfèrent travailler debout ou qui préfèrent réciter en marchant, par exemple, ou dans le bain. N'hésite pas à être hyper, hyper créative pour pouvoir proposer autre chose, une façon de faire les devoirs autrement, qui soit un petit peu moins plombante. Rappelle-toi bien que en général, quand tu fais les devoirs, ton enfant a déjà passé 8 heures en classe, dont une bonne partie assis et si possible attentif. Donc si pour les quelques minutes de devoir qu'il y a à faire le soir, il tourne autour de son lit, c'est pas très gênant. voire même pour certains enfants, c'est indispensable. Donc n'hésite pas à être créative en termes de position et de lieu pour faire les devoirs. Je sais que l'année dernière, quand on faisait exclusivement ou presque de la lecture, il était totalement vautré des fois sur le canapé, à plat ventre sur son lit, et c'est pas du tout un souci. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un apprentissage. À partir du moment où l'apprentissage est là, tout le contexte n'a pas d'importance, dans le sens où c'est pas pour ça que l'enfant va se vautrer sur la table à l'école. D'abord parce qu'il a bien compris la différence entre la maison et l'école, et ensuite parce que il est pas du tout dans le même contexte. C'est pas, on lui demande pas la même chose à la maison et à l'école. Donc c'est pas pour ça qu'il va prendre de mauvaises habitudes. Bien au contraire, ça lui permettra de souffler, de lâcher prise et de se dire, ouais, en fait, les devoirs à la maison, c'est sympa. Il faut vraiment réussir à en faire un moment sympa. Tu peux aussi, si jamais ça t'est possible, montrer l'exemple. Si tu as le moindre truc professionnel à faire à la maison, n'hésite pas à le montrer, à en parler et à parler de tes émotions et de tes sensations de façon très sincère. Oh, j'ai un mail à envoyer pour le boulot, ça me fait pas du tout envie, mais il faut que je le fasse parce que c'est important pour mon travail, parce que mon patron l'attend. Oh, bah tiens, comment je vais faire pour que ce soit plus agréable? Je vais l'expédier en 3 minutes, je vais me mettre un peu de musique. Tu vois, n'hésite pas à lui montrer que pour toi aussi, ça peut être un petit peu contraignant, mais qu'on peut y trouver un certain avantage, un certain plaisir, et n'hésite pas à lui parler de ton travail. Et surtout, je te le souhaite, si tu aimes ton travail, à faire le lien entre l'école et le travail. Parce que les enfants, quand ils sont très jeunes, en règle générale, aiment apprendre. Ça, on a tendance à l'oublier, hein, mais souvent, ils aiment apprendre. Si il y a quelque chose qui bloque leur apprentissage, enfin, ce qui fait qu'ils n'aiment pas apprendre, c'est qu'il y a un grain de sable dans le rouage, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui les coince. Mais en règle générale, les enfants, ils ont envie d'apprendre. Ils n'ont pas forcément envie d'apprendre la façon dont on leur apprend à l'école, mais ils ont envie d'apprendre. Donc il faut essayer de rétablir cette envie-là, de la refaire, lui faire refaire surface, parce que souvent on l'a planqué sans faire exprès. L'école, en essayant d'avoir des enfants qui apprennent tous de la même façon, a pu bloquer certains enfants qui, eux, aiment apprendre en chantant par exemple, ou en dansant autour d'une table. Donc vraiment essayer de retrouver ce goût d'apprentissage de ton enfant, c'est ça qui va te sauver la vie. Donc pour les enfants assez jeunes, la plupart du temps, et encore c'est pas systématique, on a une envie d'apprentissage. Pour les enfants plus âgés et quand on arrive à des concepts un peu plus complexes, ce qui est compliqué pour eux, c'est de relier ce qu'ils apprennent à l'école avec la vraie vie. Ils ont du mal à trouver de l'intérêt dans leurs apprentissages. C'est un peu le sketch de Gad Elmaleh qui a dans sa vie ressorti un compas. Pas grand monde. Et donc, le fait de parler de ta propre expérience, de ton travail, alors il y a des moments où tu vas dire, ouais, moi, il y a certains trucs que j'ai appris à l'école et qui m'ont pas servi stricto sensu. Je suis bien d'accord. Mais les autres choses m'ont permis d'avoir un travail, m'ont aussi permis d'apprendre des choses intéressantes et d'ouvrir ma curiosité. Bref, essaye vraiment de replacer les choses dans le contexte et de montrer à tes enfants que les apprentissages ont une utilité, même s'ils la voient pas tout de suite. Il faut, enfin, à mon sens, les amener à comprendre ce pourquoi ils travaillent, ça sera beaucoup plus productif que travailler uniquement pour faire plaisir à ses parents et pour avoir de bonnes notes. C'est bien, mais ça suffit pas comme motivation pour après, en tout cas, à partir du moment où ils sont autonomes et ils commencent à choisir ce qu'ils veulent faire, quand on arrive vers le lycée et les études post-bac, là, on n'est plus derrière eux, et faire plaisir aux parents et avoir de bonnes notes, ça a beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. Même des fois, les bonnes notes, ça commence au collège. Donc c'est vraiment à ce moment-là que c'est hyper important que nos enfants ne perdent pas de vue que l'école, c'est super, mais les apprentissages de l'école, ils ont quand même un but. Et le but est qu'on vive en société, qu'on apprenne éventuellement un métier, qu'on apprenne des choses indispensables à notre vie. Il y a un but derrière ces apprentissages. Et souvent, les enfants, malheureusement, le perdent de vue, surtout quand c'est des apprentissages un petit peu compliqués et un petit peu alors pas perché, mais pas très objectif, on va dire. Donc, n'hésite pas à remettre les choses dans le contexte avec ta propre expérience. Et c'est pas grave si tu leur dis « ben ouais, je suis d'accord avec toi, ça sert à rien ». C'est pas pour ça qu'il va se décourager. Au contraire, il va comprendre que, il ou elle va comprendre que il y a des apprentissages qui sont pas forcément intéressants pour tout le monde et que malheureusement, il faut quand même essayer de donner le meilleur de soi-même et que ça n'empêche pas d'apprécier le reste. Et plus tu seras dans la connivence et dans la confiance avec ton enfant, et plus il va s'autonomiser et il va se responsabiliser. Moi, je l'ai vraiment vu ça avec mes deux ados, notamment le grand. Jamais j'aurais cru qu'il s'autonomise à ce point sur son travail scolaire. Et je me souviens, je ne sais plus quelle année, notamment pour sa deuxième langue en italien, où il avait une prof qui était vraiment, vraiment très désagréable et puis qui en plus l'avait pris en grippe. J'avoue, je ne lui ai pas caché, je lui ai dit « Écoute, mon chat, je suis absolument désolée que tu sois tombée sur cette prof. Là, malheureusement, je n'ai pas d'autre solution à te proposer que de serrer les dents et d'attendre la fin de l'année. » J'avais très peur qu'il prenne l'italien en grippe et que plus jamais ça fonctionne. Et là, c'est le meilleur de sa classe. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur qu'il décide d'en avoir rien à secouer parce qu'on lui a montré qu'on pouvait éventuellement trouver quelque chose de pas intéressant. Ça n'a rien à voir. Déjà, ça dépend beaucoup de l'âge. Les enfants évoluent avec l'âge. Ça dépend aussi du contexte, de leur enseignant. Tout est possible. Mais plus on est sincère avec eux, plus on est dans la confiance, plus ils vont pouvoir nous confier « Oh là là, cette matière, je l'aime vraiment pas » ou alors « J'aime pas le prof, j'y arrive pas ». Et à ce moment-là, accueillir leurs difficultés en leur disant « Ouais, je suis désolée mon poussin, je comprends que ce soit dur. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ce soit moins lourd, plus fun, pour que tu puisses quand même arriver à gérer cette matière, par exemple, à avoir de meilleures notes ?» Plus vous serez dans sa team, et plus ce sera efficace. Et plus il va se sentir responsable de son travail scolaire. Et ça, quand un enfant est responsable de son travail scolaire, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est bonheur total, on ne s'en occupe plus. Moi, je n'ai plus rien. Je ne sais même pas ce qu'ils ont à faire à partir du CM2. Je ne regarde même plus. Donc, en termes de charge mentale, c'est quand même un grand moment de bonheur. Donc ça, c'était pour montrer l'exemple. Et alors, le dernier truc que j'ai à te partager, et je sais que tu vas pas l'aimer, je sais que c'est difficile à faire, et je suis absolument désolée, mais c'est de laisser ton enfant faire ses propres expériences, en tirer ses propres conséquences, surtout quand il est petit, parce que à la limite, quand ils sont en primaire, il y a moins d'enjeux. Les bulletins de primaire sont rarement comptés quand on arrive aux études supérieures quand même. Donc à partir de ce moment-là, un enfant qui ne veut pas apprendre sa poésie et qui ne l'apprend pas, qui se retrouve à la réciter devant l'enseignant le lendemain et qui a un 0 ou un 4, ou 4 c'est parce qu'il note de 1, 2, 3, 4, 1 c'est acquis, 2 c'est en cours, ou alors c'est des lettres acquis, non acquis, en cours d'acquisition, bref. On a essayé de faire semblant d'enlever les notes, mais les enfants ne sont pas dupes, les enseignants non plus, les parents non plus, donc tout le monde sait que ça veut dire quelque chose. Et donc, si cette poésie n'est pas apprise et que l'enfant revient avec une mauvaise note ou une mauvaise appréciation, ce ne sera pas un drame en primaire. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut utiliser cette relation de cause-conséquence. C'est-à-dire qu'une fois que tu as essayé de voir pourquoi il ne voulait pas faire ses devoirs, que tu as essayé de lever ses difficultés, de rajouter du fun, de changer la donne, de mettre un peu moins de temps, une fois que tu as fait tout ce que tu pouvais, si vraiment ton enfant ne veut pas, par exemple, apprendre sa poésie ou réviser sa dictée, tu peux très bien, et moi je te le conseille vraiment, lui dire « Ok mon chat, il n'y a pas de problème. Tu n'apprendras pas cette dictée, tu ne réviseras pas cette poésie, ou l'inverse. Et puis, ben, on verra bien ce qui se passe. Et tu vois ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit il ne s'est absolument rien passé, mais l'expérience va se renouveler et à un moment donné, il se passera quelque chose. soit il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que la dictée sera très difficile, la note sera mauvaise, la poésie sera compliquée à réciter, surtout devant tout le monde, devant toute la classe, etc. Et c'est là qu'il faut la jouer très très fine et accueillir la conséquence avec le plus de bienveillance possible. Voire même aller la chercher, parce que il est possible que ton enfant la cache, surtout si ça s'est mal passé. Alors, comment ça s'est passé, du coup, cette dictée, cette poésie Et c'est là que si ton enfant a un raté, c'est, même s'il montre le contraire, c'est assez rare qu'il n'y ait pas d'impact émotionnel. C'est surtout chez les enfants assez jeunes, ils n'arrivent pas avec une mauvaise note la fleur au fusil. Quand ils arrivent avec une mauvaise note la fleur au fusil, on est déjà sur du collège et on est déjà sur des échecs répétés. Et la fleur au fusil, c'est une façon de cacher cette détresse de l'échec. Parce qu'il y a toujours une conséquence désagréable à l'échec, quel que soit l'enfant. En général, quand ils n'en ont plus rien à faire de leur mauvaise note, c'est qu'on a déjà passé le coche depuis très très longtemps. Donc la plupart du temps, quand ils arrivent avec une mauvaise note, quelque chose de pas acquis, ils sont pas contents. Ils sont déjà punis, entre guillemets, par la mauvaise note. C'est pas la peine d'en rajouter, c'est à mon sens contre-productif de se mettre en colère. Par contre, ce qui peut être hyper utile, c'est de lui dire « Ouah, ça a dû être difficile pour toi, je suis vraiment désolée. Comment tu penses qu'on pourrait améliorer le problème la prochaine fois ? Qu'est-ce qui s'est passé, tu crois ? Qu'est-ce qui t'a manqué ?» Ah, en règle générale, on va arriver à « j'ai pas appris ma poésie, c'est pour ça que j'ai pas réussi à la réciter ». Ok, est-ce que tu veux que je t'aide la prochaine fois pour apprendre ta poésie ? Est-ce qu'on pourrait l'apprendre par petits morceaux si c'était difficile ? Est-ce que tu as les moyens de la choisir ? Là, en fait, tu reviens au tips numéro 1, étiqueter le problème et essayer d'aider ton enfant. Et toujours se mettre dans sa team, mais pas à sa place. C'est un peu du coaching, en fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas résoudre le problème à la place de ton enfant, tu vas l'aider à trouver ses propres solutions. Mais plus tu es dans l'encouragement, dans l'empathie, dans la bienveillance, je suis là pour t'aider à y arriver tout seul, et plus tu vas voir petit à petit, un petit pas après l'autre, ton enfant va se responsabiliser, s'autonomiser, trouver ses propres solutions et surtout se faire confiance. Et il va se faire confiance parce qu'il sait que tu es là sans juger, sans gronder, et que tu lui fais confiance. Tu lui montres que tu as confiance en lui, que c'est à lui de décider s'il travaille ou s'il travaille pas, que c'est à lui d'assumer ses conséquences et que toi tu seras là uniquement pour l'aider à gérer ses conséquences et pas pour le punir ou le fâcher. Et c'est comme ça que il va trouver la nécessité, en tout cas si ce n'est l'envie, de faire ses devoirs, qui va trouver le moyen de les faire de sa façon à lui, qui va trouver ses moyens d'apprendre à lui, parce que chacun a sa façon d'apprendre, on n'a pas tous les mêmes. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir petit à petit le lâcher sur l'autonomie des devoirs. Alors, avant de faire un petit résumé de cet épisode, je voudrais te faire un petit cas particulier pour un enfant qu'on a accompagné depuis longtemps. On est déjà au collège, voire au lycée, et c'est compliqué de faire machine arrière, de tout lâcher d'un coup et de laisser l'enfant se dépatouiller tout seul, parce qu'il y a beaucoup de matière, parce que là les notes commencent à avoir des enjeux, parce qu'on ne peut pas tout lâcher d'un coup. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de commencer par exemple par une matière. C'est-à-dire que si tu as un enfant qui est au collège et qui a besoin de toi pour toutes les matières ou pour la plupart des matières, essaye de voir avec lui sur laquelle il pourrait se sentir un peu plus autonome. Vous choisissez ensemble et tu lui dis « Ok, comment tu penses que tu vas pouvoir faire ? Est-ce que cette matière-là, tu veux gérer tout seul, gérer une partie, juste me réciter tes cours, etc. » Et essaye sur cette matière de lui donner le plus d'autonomie possible. Et à chaque fois qu'il revient avec une note, si la note n'est pas à la hauteur de ce qu'il pensait avoir ou de son travail, tu réajustes doucement, un petit pas après l'autre, et plus il va prendre confiance, plus il va réussir à retrouver, entre guillemets, les mêmes notes qu'il avait avant, mais sans toi. Parce que ça arrive souvent, moi je le vois beaucoup, parce que j'ai énormément d'amis et d'abonnés qui me disent ça, les notes de mon enfant, c'est presque les miennes. Là, le but du jeu, c'est qu'on arrive à ce que ce soit les siennes et pas les tiennes. Parce que si c'est toi qui es toujours derrière et qui fait presque pas le travail à sa place, mais qui encadre tout le travail. D'une part, c'est une charge mentale, mais de fou furieux. J'ose même pas imaginer tes soirées, c'est l'enfer. Et ensuite, c'est pas forcément un service à rendre à ton enfant, parce qu'il manque d'autonomie sur la gestion des devoirs. Et réintégrer l'autonomie quand on est arrivé à des classes entre le collège et le lycée, ça, c'est plus compliqué, mais on peut pas faire ça d'un coup, on peut pas tout lâcher d'un coup, parce que forcément il va se sentir complètement perdu, les notes vont chuter d'un coup et ça va être dramatique. Donc vas-y petit à petit, ça peut prendre du temps, une matière après l'autre, ou alors une partie d'une matière, je sais pas, moi par exemple, il est très bon en géométrie mais pas dans le reste des maths, tu peux lui laisser la géométrie et continuer à superviser pour le reste des maths. Mais en y allant petit à petit, il va prendre confiance en lui, il va se rendre compte de ce qu'il est capable de faire tout seul, et il va petit à petit, même des fois ça peut aller très très vite et ils peuvent être hyper surprenants, petit à petit te dire non, bah ça je préfère gérer tout seul, surtout si tu gardes bien cette idée d'être dans sa team, t'es dans son équipe, t'es là pour l'aider à trouver ses propres solutions, pas pour rajouter une punition. Il faut bien se dire que tout ce qui est notes, évaluation, contrôle, c'est déjà des sanctions pour nos enfants. C'est déjà compliqué, c'est déjà stressant. Si nous, on en rajoute en leur mettant la pression pour qu'ils aient de bonnes notes, en punissant les mauvaises notes, ou en restant dans ce qu'on connaît finalement, dans ce que moi j'ai appris quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, dès que mes notes chutaient, c'était la catastrophe. On me disait, mais qu'est-ce que tu trafiques ? Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que ça fonctionne beaucoup moins bien que l'inverse. Plus tu es dans l'empathie, dans la bienveillance, plus tu es dans sa team, vraiment là pour l'aider, et plus ça va marcher. Pour rester dans cet esprit de côte à côte, et cet esprit un peu horizontal entre ton enfant et toi, alors c'est un truc que tu peux utiliser dans toute ta pédagogie, mais qui va bien fonctionner là aussi, c'est de te dire comment je ferais avec une amie. Avec un ou une amie, comment je ferais essaye de te souvenir de tes études, comment tu faisais avec tes copains de fac pour les aider dans certaines matières, pour les aider à réviser, pour les motiver quand ils perdaient de la motivation, quel discours tu utilisais, dans quel mood tu étais, et essaye de te replonger là-dedans pour aider ton enfant sur les devoirs, et tu vas voir que ça va être beaucoup plus efficace. C'est différent de ce que tu as fait probablement déjà. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé, je trouvais ça très bizarre de faire ça. Je me disais, mais j'ai l'impression de parler à un copain ou à une copine, ça me fait drôle. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai pu réussir à prendre du recul sur ma façon de faire d'avant, ma façon de faire autoritaire et un peu habituelle. Et c'est comme ça que j'ai réussi à amener et de la confiance et de l'autonomie, surtout énormément d'autonomie dans la gestion du travail scolaire de mes enfants, à tel point que je ne fais plus rien du tout. Là, j'en ai 4, donc entre 17 et 7 ans. Et il n'y a que le petit de 7 ans que j'aide. Et encore, même maintenant, il commence à faire des devoirs tout seul. Donc, les 3 autres, je ne fais absolument rien. Celui qui est en CM2, déjà, depuis l'année dernière, je ne fais rien. Je ne sais même pas ce qu'il a à faire comme devoir. C'est lui qui vient de temps en temps me réciter une poésie. Et encore, c'est en anglais, parce que souvent, en français, il s'en occupe tout seul. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'essayer ce fonctionnement-là, même si je peux comprendre que ça te paraisse un petit peu étrange, parce que quand on était, nous, à la place des enfants, on nous a appris que nos parents, c'était pas des copains, et donc il fallait pas les considérer de cette manière. Moi, je te propose de tenter le coup. Au moins sur certains petits items, tu vas voir à quel point ça peut être efficace. Moi, c'est ce que je t'aide à faire dans mes accompagnements, à retrouver une bien meilleure relation avec tes enfants et à être plus efficace sans cri et sans punition. Parce que personnellement, je trouve, c'est pour ça que j'ai intégré ce module dans un programme entier de gestion de charge mentale, c'est que je trouve personnellement que la gestion du travail scolaire, c'est une source énorme de pression, de stress et de charge mentale. Et de lever cette charge mentale-là, c'est quand même un gros, gros pas de fait. Donc, si je résume quand même l'épisode avant de te quitter, on commence toujours par... déjà, on remet les choses dans le contexte, les devoirs sont interdits. On commence toujours par chercher le pourquoi du refus de notre enfant. Une fois qu'on a identifié le pourquoi du refus, on va proposer des solutions. On rajoute du fun, de la facilité, on allège le temps. Si ça t'est possible, dès que ça t'est possible, n'hésite pas à montrer l'exemple et laisse ton enfant faire ses propres expériences, surtout sans les punir. Ça, c'est le plus important. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça fait des miracles. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram si tu as des questions. Je serai ravie d'y répondre et de voir comment je peux faire pour t'aider si tu as encore des difficultés avec les devoirs ou dans d'autres domaines avec tes enfants. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter, commenter, mettre des cœurs et des étoiles, partager autour de toi. Tous les retours sont bienvenus pour m'aider à faire connaître ce podcast. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout n'oublie pas à quel point tu es merveilleuse.